Je renoue dans cet épisode avec les premières heures de Scribens O, Scribens A, où je faisais la part belle aux ateliers d'écriture. Cette fois-ci, je me suis rendue à Bruxelles, où j'ai eu le plaisir d'interviewer le professeur et écrivain John Jefferson Selve. Il enseigne dans la magnifique abbaye de la Cambre, qui abrite un master dédié à l'écriture, celui de l'atelier des écritures contemporaines.
Nous sommes trois professeurs titulaires dans le master, avec des charges d'horaires différentes. Il y a Gilles Collard et Caroline de Mulder, écrivaine aussi de son état. Et nous travaillons tous sur des façons différentes d'aborder le texte et de les accompagner sur la création du texte littéraire qu'ils doivent faire en 2 ans. C'est tout l'intérêt du master, ils doivent produire un manuscrit fini au bout de 2 ans. Voilà.
Et alors vous, quelle est votre méthodologie, je ne sais pas si on peut employer ce terme.
Je peux vous en parler déjà en comparant par rapport à Caroline et Gilles. Caroline a une approche, parce qu'on joue chacun sur nos personnalités et sur nos goûts, Caroline a une approche plus pragmatique, plus technique de la narration et de l'évolution des textes. Donc elle travaille sur les personnages, sur les décors, sur les enchaînements, enfin ce genre de phénomène un peu logique. Gilles et moi, bon, on est un peu différents. On travaille à partir de motifs, de grands thèmes, avec chacun notre sensibilité. Pour exemple, je pourrais prendre l'exemple tout simple de ce matin. Je leur ai fait travailler. J'ai un peu changé ma méthode. Je leur ai fait lire le dernier loup de Krasnahor Kai, qui est un texte pas trop long. Donc, je les avais prévenus il y a déjà quelques semaines. Qu'ils puissent l'acheter, prendre le temps de le lire. Et on a commencé à décortiquer le texte. Parce que c'est un texte très libre en termes de narration, qui se permet des choses peu orthodoxes, dirons-nous, mais qui se lit aussi très très bien. Et je voulais qu'on s'arrête sur la fluidité narrative du texte. La liberté que l'auteur prend. Donc on l'a lu tous ensemble et on a décortiqué certains passages. Cet après-midi, je leur ai demandé quelque chose aussi d'un peu différent de d'habitude, c'est d'écrire un texte, de réfléchir à l'écriture d'un texte à partir de ce qu'on s'est dit ce matin, mais qu'ils pourraient éventuellement intégrer dans leur manuscrit. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que s'il y avait pour eux un ventre mou dans leur manuscrit, il pouvait être intéressant de faire un drift narratif ou de faire un pas de côté par une histoire qui vient se greffer et comme une digression. Et donc cet après-midi, ils sont en train de chercher les moments de faiblesse dans leur manuscrit, de trouver une idée, comme dans Le Dernier Loup, qui est une sorte de dispositif qui permettrait à la fois de s'éloigner un temps sur 2-3 pages de leur propre texte pour quelque part mieux y revenir. Donc cet après-midi, ils prennent leur temps, c'est un peu quartier libre, ils travaillent, ils recherchent, et moi je reste à disposition pour toute question par rapport à leur texte, indépendamment de l'exercice que je leur ai donné. Et puis demain matin, ils écriront une partie de la matinée, et puis on se commentera, on fait un tour de table, chacun lit ses textes, et puis on intervient sur les idées, les progressions, la façon technique dont ils ont eu d'introduire et de greffer ce passage-là.
D'après ce que j'ai compris, dans cet ouvrage, en termes de ponctuation, il n'y a que des virgules.
Oui.
Pas de points.
Il n'y a pas de points. C'était tout l'enjeu. C'était tout l'enjeu, mais je précise que c'est pas un tour de force un peu prétentieux de la part de Krasnahor Kai. Je pense qu'il y a une sincérité totale qui colle et coule avec le flot de pensée qui est vraiment très 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 rapide. Et bon, en parler ce matin, certains étudiants me disaient que peut-être on aurait pu mettre un point, que ça n'aurait pas changé grand-chose. D'autres devinaient que ça aidait réellement la narration. Et comme ce texte est aussi parcouru de micro-ellipses, de prolapses, de retour en avant, en arrière. Je pense que ça colle vraiment avec ce qu'il se raconte et cette tête un peu perturbée qu'est celle du narrateur.
Il se mit à rire, mais pas vraiment de bon cœur, car son esprit était occupé par des questions du genre « Quelle est la différence entre la vanité des choses et le mépris ? Et à quoi cela se rapporte-t-il » D'après lui, cela se rapportait clairement à un tout émanant de tout et de partout. Or, si quelque chose s'appliquait à tout et émanait de partout, il était difficile de déterminer ce tout et ce partout. Tout cela pour dire qu'il rit, mais seulement du bout des lèvres. À cause de cette vanité et de ce mépris qui gangrenait sa vie, il ne faisait rien, absolument rien de ses journées. Traînait à droite à gauche, passait des heures assis au Sparschwein en compagnie d'une bouteille de Sternberger, et tout autour de lui était saturé de vanité et de mépris. Parfois, il s'apaisait, parfois, il cessait d'y penser, et se contentait alors de regarder dans le vide, totalement hébété, ou bien passait de longues minutes à contempler une fissure ou une tache sur le plancher du bar. Pour lui, le plus simple était, sitôt levé, de se rendre au bistrot du coin, d'y commencer et d'y finir sa journée. Pas pour s'enivrer, non, il n'en avait pas les moyens, plutôt par habitude. Et comme un jour il avait, optant pour le moins cher, dit « Sternberger, bitte !» Depuis, on lui servait toujours cette boisson. Il n'avait même pas besoin de parler. Dès qu'il entrait au café Sparschwein, la Sternberger était là, posée sur sa table. Bien entendu, il ne la buvait pas d'une traite, mais la sirotait, à petites gorgées, histoire de pouvoir rester sur place. En général, il restait 2 ou 3 heures, et lorsqu'il quittait sa table, c'était juste pour aller faire un tour dehors, effectuer un circuit le long des trottoirs crasseux de la Hauptstrasse. Il prenait la direction de la Goebbenstrasse, passait devant le Kleidspark, continuait jusqu'à la Kaiser Wilhelm Platz, traversait la rue et, à hauteur du poissonnier et du magasin de dépôt-vente Humana, il faisait demi-tour et revenait sur ses pas. Le trottoir était d'une saleté épouvantable. Tout le monde, les jeunes comme les vieux, crachaient continuellement par terre, en marchant, en arrêtant de marcher, en regardant les devantures de magasins, en attendant le bus, ce qui rendait le sol tout gluant. Ici, il était impossible de flâner car on avait l'impression qu'on allait rester collé au trottoir. Ici, il fallait adopter une certaine vitesse, une vitesse de croisière, comme il disait, pour ne pas avoir cette impression. Pire encore, au pied de certains porches, le sol scintillait souvent de vomi gelé. Quant aux murs, ils étaient tout aussi sales, maculés de graffitis kurdes délavés par la pluie. En un mot, tout commençait et finissait par la Hauptstrasse. Quoi qu'il en soit, il se mit à rire, mais ne lut pas la lettre une deuxième fois et, pendant un certain temps, ne la toucha même pas. « C'est de la connerie !» dit-il au barman hongrois, qui se contenta de le regarder en haussant les sourcils. Il n'entendait rien de ce qu'on lui disait tellement la musique était forte, de la pop kurde sirupeuse, comme toujours au Sparschwein, Mustapha Sandal ou Tarkan, ou bien Tarkan ou Mustapha Sandal. Ce qui n'avait franchement aucun sens, car le proprio avait beau essayer de les attirer avec ça à l'intérieur, dans un bar où l'on servait de l'alcool, les Turcs n'y mettaient jamais les pieds, sauf par erreur. « Ah, ce n'est rien !» dit-il en s'accompagnant d'un geste de la main. Et il regarda par la fenêtre. Mais dehors, il n'y avait rien à regarder. Les toxicos adossés au mur attendaient quelque chose. Le ciel était d'un gris sinistre. Mais il n'y avait rien à regarder. Vanité et mépris. Il repoussa la lettre car il n'avait même pas envie de la froisser et de viser la poubelle la plus proche. « Un vrai cauchemar !» dit-il au barman. Après quoi il se mit à rire. Mais le barman n'eut aucune réaction. De toute façon, à quoi bon lui expliquer qu'il s'agissait sûrement d'une de ces publicités débiles ? Ou qu'on le confondait avec un autre ? Ça ne pouvait pas être sérieux. Et pourtant c'était sérieux, extrêmement sérieux, comme cela se révélerait par la suite. Toute cette histoire était ridicule. L'enveloppe était bien libellée à son nom et avait bien été postée à Madrid, mais ça ne pouvait pas être à lui qu'on écrivait un truc pareil. À savoir qu'il était invité en Estramadour par une fondation inconnue.
Et puis, c'est remettre un peu de liberté. Dans l'idée plus générale, c'était de leur dire, je sens, ça dépend des années, mais peut-être qu'il y a un retour à une forme narrative plus traditionnelle, et que ne jamais oublier qu'on peut aussi s'amuser avec un texte. Alors, bien sûr, faut pas, c'est le contraire de faire n'importe quoi, mais j'avais envie qu'ils replongent un peu dans ce genre d'exercice, parce que c'en est un. Mais particulièrement réussi, donc voilà.
Donc en fait, adopter une telle ponctuation, c'est l'exercice auquel ils vont se prêter cet après-midi.
Non, alors, encore une fois, c'est pas le tour de force de fait que ce livre ne soit qu'une phrase, mais non, de plutôt jouer, mais là, il faudrait rentrer à l'intérieur du texte, où le narrateur s'épanche auprès d'un barman qui n'écoute pas en racontant des souvenirs récents, et où d'autres personnages interviennent, mais il fait un jeu de dialogue entre on lui pose une question dans le passé et lui répond au temps présent avec le barman. Il y a un principe confessionnel, c'est pas sans faire penser à la chute de Camus. C'est un peu le même principe, c'est quelqu'un qui se confie, il y a un narrateur, il y a un personnage autre à côté de lui, et c'est un flot de paroles. Et puis il y a un barman qui sert de point de réponse, qui est un peu neutre. Dans le texte de Krasznahorkai, ça permet de mettre beaucoup d'humour sur un propos très sombre. Voilà, c'est toutes ces petites choses. Et surtout, ça permet de faire des digressions très intéressantes.
Ohé, on se réveille ! Hurla-t-il au Hongrois, qui se réveilla en sursaut et se mit à papillonner des yeux. Je suis sur le point de raconter ce que le garde-chasse voulait me révéler. Ah ouais ? C'est quoi ? Marmonna le barman en se frottant les yeux. « Eh bien, exactement ce que j'avais moi-même deviné en écoutant son histoire. C'est pourquoi je lui ai demandé de ne rien dire. Nous nous sommes simplement enlacés avant de nous séparer. Et c'est ainsi qu'il est devenu l'objet de cette angoisse dont je n'ai pas réussi à me délivrer. »« Ah, d'accord. L'angoisse !» éructa le barman en bâillant et en s'étirant le dos. Et il marmonna en hongrois. « Allez !» « Raconte-moi ton histoire de dernier lourd, raconte, vas-y, je t'écoute. »« Oui !» dit-il en se tournant à nouveau vers la fenêtre. Mais il s'arrêta de parler, garda définitivement le silence. Car comment expliquer que même s'il était revenu d'Estrémadure, où il n'avait effectué qu'un court séjour, et avait retrouvé sa vie exempte de pensée, c'est-à-dire le désert mortifère du Sparschwein, comment expliquer dans ce Sparschwein, dans cet espace vide, creux et froid, que même s'il n'avait pas touché les tendereaux, il avait gardé l'Estrémadure recluse au fond de son cœur vide, creux et froid. Et chaque jour, depuis son retour, il réécrivait dans sa tête l'histoire de José Miguel. Et chaque jour, en arrivant à la fin, il en modifiait le dénouement.
Donc ce pas de côté en fonction de chaque projet de chaque étudiant. J'ai du mal à visualiser ou en tout cas à imaginer ce que ça peut...
Pareil. Bon, on verra ça cet après-midi ou plutôt demain. Mais on est toujours très surpris. C'est ça le bonheur du master, c'est de voir à quel point les étudiants s'accaparent, même quand c'est un peu nébuleux. Ils ont tous lu le texte très sérieusement, l'exercice, ils comprennent un peu, c'est peut-être pas très clair, mais il y a toujours une part, il y a toujours une part de surprise, il y a toujours une part de résultat inattendu, et c'est ça qui va être intéressant, parce qu'après ça nous permet ensuite de rebondir sur cet inattendu. Voilà, mais c'est sûr que c'est pas très académique. Sur un texte pas très académique, donc ça peut donner des choses. Et puis encore une fois, c'est pour attaquer un passage dans leur texte. Je parle plutôt pour les secondes années qui vont vers la fin, mais là on est mélangé, bon, on va le tenter sur des moments où ils ne se sentent pas en sécurité, ou en tout cas dans un flou, ou bien ils sont mécontents, bon, en tout cas de ce qu'ils ont produit. C'est une sorte de tentative de voir s'il n'y a pas une autre manière de faire ou de procéder. Il y a un côté laboratoire encore. Hein. On tente, on coupe, on revient. C'est très artisanal.
Et vous avez identifié au préalable ces passages, ces moments difficile.
Ah non, non, c'est pas moi, c'est pas mes passages. Je veux pas que ce soit ce que je trouve pour le moment de difficile dans leur texte. Je veux que ce soit ce que eux trouvent difficile. Ça, on a d'autres moments où je travaille plus précisément sur eux. On travaille tous ce qu'on appelle les rendus. C'est 3 fois par an. Et là, on lit les textes en l'état, mais travaillés. On lit ce qu'ils estiment être très présentable. Et là, on fait des journées tour de table, par groupe de 7, où tout le monde se lit, se commente. Ça dure toute la journée. Et c'est généralement un bon exercice que tout le monde aime, parce qu'il est très profitable. Et moi, j'interviens, parce que j'ai aussi fait la lecture. En fin de journée, j'interviens. Et là, j'interviens en tant que professeur sur ce que je pense, sur les remarques des autres, qui sont souvent très pertinentes. C'est assez incroyable. Et donc, c'est une manière de faire progresser le texte avec un regard bienveillant et en même temps critique. Critique, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils en pensent ou quand ça ne va pas. Mais c'est toujours des bonnes journées. C'est des journées. Et là, oui, j'interviens. Là, dans cet exercice de ce matin, je veux que ça vienne d'eux. Donc, c'est toujours drôle parce qu'on n'identifie pas les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, je vais penser que ça n'ira pas par là. Eux, ils pensent à d'autres choses. Mais c'est jamais gratuit. Ça apporte toujours un peu. Quelques mois plus tard, ou quand ils vont être sur d'autres situations. Ou le principe du dernier loup de Krasnahorkaït de ce matin, si ça leur parle pas là, je sais bien que ça reviendra dans quelques temps.
Mais ça ne dévie pas de leur trajectoire propre.
Non, mais c'est compliqué parce qu'ils débarquent avec des idées de texte et quelques pages. Mais et parfois même quand ils ont des moutures plus abouties, à 95% du temps, peut-être quasiment 100%. Ce qu'il présente en début d'année, la première année, n'a plus rien à voir avec ce qui va apparaître pour la remise du manuscrit pour les jurys. Ça a évolué, ça a vécu, il y a parfois des changements totaux. C'est tout l'intérêt de ce master-là. Mais il n'y a pas, je crois pas avoir un souvenir d'un étudiant qui serait venu avec bille en tête, bille éclair et une histoire très structurée et que l'histoire soit restée la même. Ça fait partie du temps, du regard des autres, de ce qu'il apprend aussi, parce qu'ils apprennent beaucoup. Et donc, juste sur ça, il y a quelque chose un peu d'empirique, mais ils se nourrissent de nous, des autres étudiants, et les textes bougent, ils se métamorphosent beaucoup.
Alors, pourquoi avoir donné ce nom, l'atelier, des écritures contemporaines ? Écriture contemporaine.
Alors ça, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. C'est pas moi qui.
Qu'est-ce qu'on pourrait.
Les ateliers.
Comment on pourrait définir les écritures contemporaines en fait.
C'est tautologique, les écritures contemporaines, parce que c'est des jeunes femmes et des jeunes hommes qui écrivent, et plutôt généralement premier roman. Donc c'est plutôt sur eux ou sur le monde tel qu'il est, ou bien sur leurs affects ou leurs traumas. Mais écriture contemporaine dans le sens expérimental ou pas, c'est pas du tout le terme. Les ateliers, par contre, ça correspond parfaitement parce que c'est ces 3 pièces là que vous voyez, et puis ils passent leur journée là, ils se posent, ils lisent, et puis il y a des cours, il y a des interventions, il y a beaucoup d'intervenants extérieurs, donc ils ont des grosses journées. Parce qu'il y a une partie plus théorique pour valider le master à l'ULB. Donc là, c'est un peu un laboratoire. Donc laboratoire, atelier, ça, les mots vont bien. Après, écriture contemporaine, il fallait dire quelque chose.
Le mot trauma m'a interpellée, mais comment on sélectionne les élèves qui viennent ici ?
Alors ça, c'est un travail très très difficile. Déjà, il y a un dossier. Ils doivent présenter un dossier. Un début d'idée de ce qu'ils voudraient faire, des extraits. On leur demande aussi maintenant de parler d'autres livres pour voir comment ils se situent. Et puis après, les rencontres. Et là, bien sûr, il y a une part de subjectif, c'est très... Mais On va dire qu'on privilégie ceux parce que c'est arrivé qu'il y ait des étudiants qui veulent écrire, mais quelque part, étrangement, ils n'étaient pas non plus très concernés par la lecture ou les œuvres, une sorte de performance. Donc, bon, ça, on prend plus ce genre d'étudiants. Je crois que faut sentir une sorte de passion, le mot est désuet, mais une sorte d'élan. Et puis des fois, on se trompe, mais peut-être pas tant que ça, parce que les groupes sont cohérents. Bon, aussi, il faut réfléchir à la cohérence du groupe. Alors là, ça devient encore méta. Donc, je sais pas, c'est un peu intuitif. Donc, on a le dossier sur lequel s'appuyer. Évidemment, si c'est truffé de fautes, l'expression est désastreuse, bon, d'emblée, on évacue. Mais c'est dur. C'est vraiment un exercice difficile. Je pense qu'il y a une part de... Bon, à être le plus sérieux et le plus objectif, c'est un peu compliqué.
Alors, le mot passion, est-ce qu'on peut parler de passion? Est-ce qu'on peut parler de don?
Ah, la question piège. De don, le don, c'est un peu connoté, mais... Ouais, je pense qu'il faut quand même un peu de talent. Je crois pas. Enfin, mais après, je suis pas sûr. Là, je parle pour moi. Je suis pas sûr que Gilles ou Caroline diraient ça. Mais ça vaut, je crois, quasiment pour tout. Il doit y avoir, après, comme disait l'autre, 10% de talent et 90% de travail. Hein, donc, bon,
pas de... Ça, c'est Braille.
Ah, voilà. Bon. Donc, l'un dans l'autre, le talent, ça ne suffira pas. Je pense qu'il faut sentir une sorte de volonté. Et puis, on a vu, et ça c'est réel, des étudiants sur lesquels on a cru très vite que ça n'allait pas le faire. Il y avait, ça ne marchait pas en termes de qualité. Et puis, il y a une sorte de miracle. Au bout de quelques mois, il y a un déclic qui renverse absolument toutes nos croyances. Donc, il y a une part de mystère. Ouais, on se trompe. On se trompe. On a vu et le sens contraire. Moi, j'ai vu des étudiants qui démarraient très fort avec des singularités et puis qui ne tiennent pas sur la durée et les textes ne tiennent moins. Chaque année, il y a des cas très différents. Et donc, ça nous apprend quand même à être prudents sur nos propres appréhensions ou manières de croire. Faut jamais penser. Au bout de 3 mois ou de 6 mois ou même d'un an, que c'est figé. Il y a toujours des surprises. Parce que c'est difficile de tenir la durée pour un premier roman, d'être 2 ans dessus. C'est parfois. Je discutais tout à l'heure avec certains étudiants et ils sont essoufflés là. C'est la deuxième année, c'est le diplôme, il est dans pas longtemps, il faut finir. Il y a une pression et on sent parfois qu'ils en ont un petit peu marre. Hein. Ça, c'est quand même, il y a un côté marathon. C'est long maintenant, 2 ans, dans notre époque, sur un même sujet. Mais voilà.
Et vous, en tant qu'enseignant-chercheur, on peut dire enseignant-chercheur ou pas?
Moi, je suis enseignant-chercheur, non, parce que je ne fais pas de recherche. Techniquement, je ne fais pas de recherche. Moi, je suis plutôt enseignant-écrivain. Voilà. Et je suis éditeur. Je m'occupe aussi d'une revue d'art et de littérature. Et puis je suis sur mes livres et puis je fais d'autres choses. Mais non, je ne fais pas de recherche au bon sens strict.
Et est-ce que le fait d'enseigner, de transmettre, est-ce que transmettre, c'est une passion? Ou c'est venu comme ça, par hasard, un petit plus? Et comment ça nourrit votre écriture et vice-versa?
Ouais, bah c'est un peu des deux. Alors, transmettre au sens réel du terme, c'est venu sur le métier. Mais en même temps, par l'édition, par mon goût d'éditer ou de découvrir des textes, des jeunes textes, généralement des gens qui n'ont pas écrit, et dans mon envie de transmettre les goûts des textes. J'ai fait aussi pas mal de critiques, livres, durant ma vie. Bon, il y a ces deux aspects. J'aime bien transmettre mes propres goûts et j'aime bien travailler à la naissance d'un texte quand je sens ma talent. Donc ça, c'était mes prédispositions. Et après, j'ai appris sur le tas avec Gilles et Caroline, Nathalie auparavant, que c'était encore autre chose d'être en cours avec eux. Et moi, j'essaie plutôt de leur faire entendre une position de la littérature. Ce que peut être la littérature, et peut-être de sortir parfois de quelques ornières que l'on pourrait voir être trop contemporain, ou de toujours replacer leur propre geste d'écriture dans quelque chose de plus vaste qu'eux, avec des enjeux existentiels, pas métaphysiques, mais presque. Enfin, j'inscris la littérature, moi, c'est plutôt mon côté, dans quelque chose de l'ordre de la grande nécessité. Je le mets à... Mais je parle toujours de grands auteurs, de possibilités, et je leur dis souvent qu'il faut considérer la littérature comme un grand art, et pas un art mineur, entre guillemets, par rapport à la peinture ou à la musique, mais que c'est vraiment peut-être le plus grand des arts. C'est ma théorie personnelle.
Pourquoi ?
Parce qu'on peut tout mettre, on peut tout dire, on peut mettre les parts les plus sombres, on peut parler de politique, d'imagination la plus délurée. Enfin, il y a une liberté d'espace, de temps, de monde. Je vois pas d'autres arts capables de faire ça. Donc,
est-ce que vous considérez que l'écriture scénaristique est quelque part littéraire ?
Moins, mais en même temps, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que elle apporte énormément dans la construction des romans un peu traditionnels. On a une ancienne étudiante, et je dis moi parce que j'ai parlé il y a 2 jours avec une ancienne étudiante qui était là, donc il y a 2 ans, et qui l'a fait la même chose, mais en scénario, et il y a une sorte de déception, je crois, dans le fait d'avoir entrepris ça, pour des questions, après ça doit dépendre des masters, pour des questions que c'est très 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 cadré, il y a vraiment un canevas, c'est une méthode un peu plus structurée. Donc il faut répondre à des codes, à des... Mais bon, je crois que dans toute façon de faire, il y a un grand moment de liberté. Mais non, je me rappelle de la question sur les polars. Moi, je suis fan de polars, donc...
Oui, c'est pour ça que je voulais l'aborder, ouais. Effectivement, que vous considérez comme un sous-genre. Mais ça fait très longtemps, finalement, qu'il y a ce débat.
Mais moi, c'est pas du tout un sous-genre, c'est même fait partie des grands genres. Parce que le polar, en fait, c'est comme un sonnet. Il y a des règles, et donc il y a une certaine forme de corset. Le fait est que, comme chez Baudelaire, avec ce principe de sonnet, c'est ce qu'il disait, ça lui donne un espace de liberté exceptionnel. Les codes du polar permettent, et j'en lis beaucoup, ils ont pourtant les mêmes règles, plus ou moins, mais il y a une liberté et une diversité de polar complètement dingue. Et puis surtout... Paradoxalement, ça permet ce corsetage ou ce principe permet la plus grande des libertés une fois qu'on est dedans.
Liberté, créativité.
Oui. Certes, il y a certaines règles, mais les possibilités ou le potentiel d'imagination, de situation, d'écriture, une fois qu'on a posé une sorte de route sur laquelle se tenir, ça nous permet de se lâcher sur, ou en tout cas les écrivains de polar, moi j'en écris pas, mais... souvent j'ai des choses incroyables, et non, je trouve pas du tout que ce soit un sous-genre. Et puis il y a des mauvais écrivains de polar, des bons écrivains de polar, donc ça veut bien dire qu'il y a des qualités dingues. On a eu déjà des gens qui écrivaient des polars.
Pardon ?
On a déjà eu des étudiants qui voulaient faire ça.
Mais est-ce que justement la construction du polar, vous l'utilisez ?
Non, on n'a pas encore travaillé, effectivement, sauf à, si moi j'en parle, mais j'en parle à travers la figure de James Ellroy, surtout sur les dialogues. Alors,
c'est plus sur roman noir. Hein.
Ça dépend, la première trilogie, celle qui est avant, la colline, ça fait tellement longtemps. Il y a une trilogie de 3 qui sont vraiment des polars purs durs, du hard-boiled même, comme on dit. Et après, c'est vrai que chez Ellroy, il y a du roman noir, mais je crois que la moitié de son œuvre, c'est des polars. Hein. Et même les romans historiques comme American Death Strip ou ce genre de choses, Bon, ça se passe quand même au cœur de la police, complot, toujours une femme fatale, toujours, enfin, il y a toujours des grands codes. Alors bon, ça se passe avec les Kennedy, des figures, des complots, Cuba, ce qu'on veut. Mais si j'en parlais, Delroy, c'est qu'il peut tenir 800 pages de dialogue de polar, et ça passe comme une lettre à la poste. Donc, et puis il y a plein de genres, polar norvégien, manchette pour les Français, enfin bon, il y a... Donc, non, moi je suis plutôt pour.
En fait, j'entendais par là, est-ce que le travail de la construction, c'est quelque chose que vous enseignez ou vous transmettez ?
Non. Bon, fait pas. Alors, ça c'est Caroline qui est le plus, je pense, le plus dans les squelettes et les récits. Moi, c'est pas du tout mon truc et mon. À part les polars qui sont le contre-exemple, je vais plutôt vers une littérature. Plus proche de Faulkner ou de quelque chose de plus de l'ordre du mental, mais ça c'est une question de goût. Bon, j'essaie quand même de leur montrer que ça existe, puisqu'ils sont en majeure partie quand même tentés par l'autofiction.
Et bon, pourquoi ?
Quelque chose à sortir certainement, de l'ordre de la blessure. Il y a beaucoup de textes, depuis des années, on a beaucoup de textes qui parlent de violence, de trauma d'enfance. Et ils sortent quelque chose. Donc, premier roman, certainement, ils règlent des situations très difficiles. D'ailleurs, moi, ça m'a permis de comprendre une certaine violence de la société sur ces 5-6 dernières années avec les étudiants. Quand je lis les textes, oui, c'est parfois difficile. Bon, on n'a jamais. Il y a vraiment le. C'est la force de l'art et particulièrement dans notre méthode. On peut lire absolument tout et on sait bien qu'ils parlent d'eux, que le narrateur c'est eux. Il peut y avoir, mais on n'intervient pas en psychologie. On n'est pas là. On parle du livre. Le livre fait écran. Et tant mieux. Je pense que naturellement ils vont vers l'autofiction pour ça. Après il y a des textes. Il y en a toujours 2-3 qui sont de l'ordre de la pure fiction, qui vont vers autre part. Mais majoritairement c'est il y a quelque chose à sortir de l'ordre de violence familiale, de viol ou d'inceste.
Et la narration se fait à la première personne du singulier.
Souvent, ouais, bah oui. Mais après, il y a eu, bien sûr, en go avec l'inceste avait créé un précédent, mais Nashinobe est revenu sur le même principe avec un livre incroyable, avec un dispositif qui était différent. C'est-à-dire que après, c'est étrange, comment réinventer aussi dans une figure qui devient cliché. Et là, c'est à eux de le faire. Pareil, on essaie de les aider. Mais sinon, on en est malheureusement à un truisme. Enfin, c'est quelque chose qui devient éculé, le livre sur son trauma. Donc, pour y apporter une nouvelle lecture, une nouvelle force, et c'est singulier, hein, parce qu'on parle d'expériences difficiles, mais la transformer en œuvre d'art, bah, ça nécessite de l'imagination, ça nécessite du recul, et pas tout à fait le même. Donc, non, c'est très intéressant. Et il y a des tentatives très, très intéressantes.
Est-ce qu'un travail sur l'autofiction, c'est écrire sur ce trauma ou sur cette blessure jusqu'à trouver le moment, le twist, récit, narration ?
Oui, mais après, là, sur ces aspects-là, et effectivement... l'exercice, là, bon, on rentre dans la technique, mais il est important pour nous, enfin, et pour moi, de préserver au maximum leur façon de faire. C'est-à-dire que je ne suis pas là, et contrairement à ce que pourrait être un creative writing à l'américaine, où il y a une technique, une nomenclature, nous, à notre stade, et c'est là où ce n'est pas un travail d'éditeur, comme j'ai l'habitude de faire sur des commandes de texte ou sur d'autres choses, où j'interviens d'une certaine manière. Là, c'est plutôt quand ça ne va pas, quand vraiment il y a des soucis de narration ou de compréhension, on intervient. Mais moi, je n'interviens pas sur une forme prédéfinie, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, ma vision de la littérature elle n'est pas non plus très académique. J'aime bien les textes qui ne sont pas académiques. Et il faut se laisser guider et préserver quelque chose de... Donc... je ne vais pas leur dire, là, surtout sur des sujets aussi sensibles, « Ah, là, je sens bien que tu devrais faire un trix narratif, ça permettrait d'éclairer ça et de mettre plus de puissance, de plus d'intensité là. » Ça, je les laisse faire. ce qui m'intéresse pour moi, c'est qu'ils soient relativement clairs dans leurs phrases, dans leur écriture, qui a un rapport au style. Je pense que le style est très important. Donc ça passe aussi par la lecture, le style. Il faut lire beaucoup. Et moi, je tente de les faire lire.
Est-ce que justement, votre posture n'est pas celle d'une sage-femme ou d'un maïeuticien qui leur permet de trouver leur propre clé?
Ouais, ce serait bien, mais dans ce cas-là, dans un esprit collectif, puisque ça peut pas être... Moi, quand je viens et que j'interviens à Lacan, j'interviens pour les premières années, les deuxièmes années, enfin pour tout le monde. On apprend à les connaître. On sait bien comment les choses se visent, mais c'est plutôt l'état d'esprit, et c'est plutôt de leur donner... Alors, le thème est bon, mais il est presque collectif. Il est paradoxalement presque collectif.
Mais les cours d'autonomie se font collectivement.
C'est ça. C'est une maïeutique collective, presque communiste pour le coup. Mais oui, si quand même je peux apporter quelque chose, c'est de cet ordre-là. Encore une fois, mais chacun a sa force. Moi, c'est plutôt quand même de les entendre. D'essayer de les entendre et puis de leur transmettre ma propre passion.
Et comment on transmet sa propre passion?
Par des exemples, en leur faisant lire des textes que l'on aime bien, que peut-être eux n'auraient pas forcément envie de lire, de les convaincre de lire des choses qui sont peut-être plus leur truc, parce que l'époque, c'est plus l'époque. Et puis appuyer sur des grands auteurs, passer un peu de temps dessus, essayer de faire ressentir les phrases, enfin le moment où il y a du génie. Donc ça passe par pas mal de lectures.
Donc on peut trouver son propre style, à votre avis on le trouve à force de lecture?
Ouais, je pense que c'est avant tout. Alors on a toujours, pour le coup, bon, on revient à tout à l'heure, la part de talent, son propre souffle. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Toutefois, c'est ce que j'ai vu par expérience. Moi, avant d'être à Lacan depuis 6 ou 7 ans maintenant, j'aurais cru que c'était inné. Le talent, il y a une grosse part d'inné. Et je pense que je me suis trompé. Le génie dans sa tour d'ivoire, j'y crois de moins en moins. Parce que j'ai vu des gens se développer. Alors, certes, il faut quand même un souffle premier, quelque chose. Mais ceux qui en semblent dépourvus au premier abord, je les vois s'accrocher, travailler, entendre les autres textes, justement. Je pense que quand on lit vraiment quelqu'un comme Faulkner, quand ça nous prend et qu'on est imprégné, quoi qu'on en dise, ça contamine quelque chose. Alors on va pas se mettre à écrire comme Faulkner, mais ça apporte un rythme, ça apporte une manière. Donc oui, je crois que le style c'est tout, plus que le sujet. J'aurais dit ce matin cette phrase de Duras, les bons livres n'ont pas de sujet. Je pense qu'on peut écrire un peu sur n'importe quoi, mais il faut la vision, il faut la langue. Pas tout à fait vrai, mais... Et je pense que j'ai des collègues qui diraient absolument le contraire. C'est aussi ça. Ils sont grands, hein. Ils savent bien ce qu'ils prennent chez moi, ce qu'ils prennent chez... Ils sont pas dupes.
Vous n'êtes pas passé par un master?
Non. Moi,
qu'est-ce que peut apporter
moi, déjà,
justement...
c'était dans un autre monde.
Qu'est-ce que peut apporter justement un master? Comment ça permet d'aller plus loin, plus vite?
Non. Ça apporte un truc assez exceptionnel. Et j'ai beaucoup d'amis écrivains qui me disent à quel point ils adoraient avoir ce genre de structure, même pour eux, comme une sorte de résidence ou... Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça devient de plus en plus dur d'écrire seul, de se coller derrière son écran, avec en plus un écran qui est comme un démon, où il y a Internet. Donc, écrire, c'est toujours des grands moments de solitude, mais c'était comme ça, mais j'ai l'impression que cette génération, ou en tout cas telle qu'elle aujourd'hui, le fait de s'appuyer, de compter sur les autres, d'avoir des délais... une sorte de règle, il faut rendre dans 2 mois, il faut rendre dans 3 mois, il y a du suivi, c'est ultra important, c'est devenu important, et comme je vous dis, j'entends pas mal d'écrivains qui le disent un peu sur le ton de la rigolade, mais avec une pointe de jalousie. Et ils auraient été bien contents, eux, d'être suivis au long cours sur le début. Parce qu'il y a un moment de découragement, c'est long. Le master crée une certaine forme de solidarité. Il y en a beaucoup, ils sont amis pour des dizaines d'années. Ils ont passé 2 ans à écrire sur leur propre texte. Ça, c'est très beau, moi. J'aime bien les revoir après, puis ils sont encore là. Ça fait partie des choses belles. Ça apporte un cadre d'écriture qui est très difficile dans notre monde contemporain où la concentration est quasi impossible. Bon, bah là, ils n'ont pas le choix. Ils sont là pour ça. Donc, déjà, ils ont signé pour 2 ans, puis il y a la structure, puis il y a les interventions, et on parle du texte, on parle du motif, on parle de... Donc, au bout de 2 ans, c'est vrai que ça fatigue, mais quand tout se passe bien, ils rendent un manuscrit théoriquement prêt à être envoyé à un éditeur. Bon, souvent, il y a un peu de travail encore, mais c'est la plupart y arrivent. Et c'est un peu... C'est ça qui fait la différence. Donc, je pense que c'est vraiment la plus-value, elle est là, puis le nombre des intervenants. Parce qu'il y a, par exemple, il y a Gérard Berryby qui vient, qui a fondé l'édition Alia. Il y a des écrivains, il y a d'autres écrivains, il y a des gens de tous les milieux. Et puis, ils ont une mise en place du livre hors manuscrit. Ils doivent, pour le jury, ce qu'on appelle le hors-livre, avec l'aide d'une metteur en scène qui s'appelle Joanna Price, ils montent le livre sur scène. Et là, il y a carte blanche. Ça peut être avec des vidéos, du son, ou pure performance. Donc, ils manipulent leur matière littéraire de toutes les façons. Donc, c'est quand même... C'est ce que je leur dis. Des fois, vous n'avez pas la chance que vous avez. On consacre 2 ans sur vous. C'est pas mal.
Et est-ce que vous profitez de cette émulation pour écrire? Est-ce que ça vous entraîne? Ça vous donne une...
Alors moi, moteur. Non. Alors non, moi, pas non. Du tout. À titre personnel, c'est un peu le contraire. C'est vraiment très, très personnel. J'entends trop de choses, je vois trop de choses, ça me parasite mes propres intentions. Mais je viens pas souvent. J'ai un poste qui fait que je viens 2 à 3 jours par mois, des journées complètes. Donc j'ai un grand temps, mais je sais que quand je suis dans des phases ou de lecture pour les rendus, parce qu'il y a beaucoup de travail à la maison, c'est long. Hein, quand en fin d'année, on doit lire plusieurs manuscrits de centaines de pages, très sérieusement, ça prend du temps. Bah, je sais que dans ces moments-là, c'est pas des périodes pour moi. Du coup, c'est les grandes vacances et les vacances. Ouais.
Et justement, vous, votre travail s'inscrit dans une trajectoire. Est-ce qu'on leur apprend aussi à inscrire leur œuvre dans une trajectoire littéraire? C'est-à-dire, pas écrire juste un roman, mais 2, 3, 4?
Non, je crois que ce scène-là est vu en plus... Je vais employer un mot un peu négatif, mais vu la déréliction du monde de l'édition, les envoyer... Dans une sorte de vision comme ça, à très long terme. Je leur dis pas que c'est un peu les derniers dinosaures d'une manière de produire ou de faire, que ce soit par le fait que les ventes de livres, de littérature, je précise, sont de plus en plus catastrophiques, que les IA viennent se mêler de ça, etc., etc. Je crois qu'on est à une fin de la littérature telle qu'elle. Ça durera peut-être pas, mais la période est pas la meilleure. Donc de là, les inscrire sur une vision à long terme, c'est même pas comment ça sera demain. Donc, déjà, écrire sur 2 ans et finir un texte me paraît le plus juste. Non, la seule chose qu'on leur dit, parce qu'il y a parfois, c'est la joie de la jeunesse, une sorte de naïveté sur une possibilité d'en vivre, on leur dit que c'est difficile quand même. Je sais pas combien de personnes vivent de leur production littéraire en France, mais c'est pas beaucoup. Donc, c'est un sacerdoce. Il faut faire autre chose pour la plupart des gens, sauf être rentier ou bourgeois comme on était auparavant, mais bon, je ne le connais pas beaucoup.
Il y a le film de Valérie Donzelli, là, pied d'œuvre.
Ouais. Est-ce qu'il est bien?
Je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est justement ça. C'est la thématique.
Oui, mais c'est la thématique. Et puis dans le monde de l'édition, on se rend compte bien qu'au bout d'un moment. Les gens qui écrivent et qui ne sont pas dans les gros succès et qui continuent, c'est parce qu'ils peuvent, et tant mieux pour eux. Généralement, il y a une petite rente ou il y a quelque chose. Mais c'est bien sûr le professeur encore. Mais ça devient difficile.
Qu'est-ce que vous pensez de l'alternative qui est l'autopublication ?
Alors, ça, c'est mon côté conservateur. Et je ne sais pas pourquoi. Si, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques. Et j'ai vu des gens se faire arnaquer terriblement. Donc, ils ont l'objet. Bon, il aurait pu l'avoir pour 5 ou 6 fois moins cher. Et puis des promesses faites et qui ne seront pas tenues. Donc, bon, les gens peuvent être dupes un certain temps, mais j'ai connu des gens qui s'étaient fait autopublier. Bon, ben voilà, on a une trentaine, bon, on a une caisse avec des livres. Bon, on en a filé à ses amis, puis ça s'arrête là. Sauf qu'on est passé par des structures qui faisaient ça, c'est en train de changer. Qui ont pris beaucoup d'argent, généralement. Hein, c'était pas... Donc, pour moi, il y a quelque chose. Et puis, il y a l'autre chose qui est...
Là... On peut passer par Amazon KDP.
Oui, mais ça, c'est nouveau. Ça, moi, je ne connaissais pas.
Oui, justement. Ouais. Moi, je pensais à Amazon KDP, en fait.
Ouais.
Qui pourrait être une alternative.
Oui, mais là, alors là, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'inscris quand même les choses dans une éthique, ou dans un ethos. Et Amazon, hors de question. On n'écrit pas de nulle part et on est dans un monde avec ses enjeux. Je pense qu'Amazon, bah, forcément, c'est diabolique. Ça. Moi, j'ai beaucoup consommé. C'est-à-dire qu'avoir une pulsion d'achat libre et l'avoir le lendemain, je vis à la campagne, bah, c'est génial. Mais bon, si on creuse un petit peu, c'est quand même, on peut attendre 3 jours.
En fait, l'idée, c'est juste, est-ce que écrire pour écrire suffit, ou le désir d'être publié à tout prix et d'avoir l'objet et de pouvoir le transmettre au monde, c'est une phase quand même super importante, que ce soit publié chez un éditeur grand, petit, moyen, ou bien tout simplement passer par l'autopublication. Ben, ou alors, ça vaut pas le coup.
Je sais pas, alors ça, je pense que c'est personnel. À titre personnel, je dirais que... mais c'est parce que ça s'inscrit dans une théologie... une sorte de vision de la littérature où, presque à la Maupassant, bah, la belle amie, où il faut passer par les fourches codines de la réussite ou de l'étape de la publication. Et puis c'est une légitimité qui est certes qu'on devrait remettre en cause beaucoup plus souvent, mais être choisi par une maison d'édition, il y a quand même un choix, il y a un mythe. Il y a un mythe qui est certainement, comme tous les mythes, à déconstruire. Mais à titre personnel, je ne l'ai pas encore fait et je pense que la plupart des étudiants rêvent d'être, ne remettent pas en cause ce système d'élection qui est parfois injuste. Et comme on le dit souvent, aujourd'hui, on mettrait du Malcolm Lowry, du Faulkner ou même du Duras en premier roman sur un bureau d'éditeur, ce n'est pas publié. Donc voilà. Et c'est pareil, c'est une antienne, mais ce que je dis repart. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a encore ce besoin de croire que ben, l'éditeur, alors que les éditeurs sont de moins en moins éditeurs, ils fonctionnent de plus en plus avec des gens du marketing par derrière, des algorithmes même. Donc, mais bon, on aime rêver, c'est l'illusion. C'est un mirage, mais tout ça repose quand même sur un gros mirage.
Mais quand même, alors du coup, ça signifie que vous misez sur le fait qu'il soit publié, vous, du coup... vous étudiez les tendances ?
Non.
Non, du tout.
Alors là, moi, les bullshit comme ça, je sais pas.
Parce que le but, c'est quand même qu'il soit publié dans une maison d'édition.
Oui, mais publié dans, quand on voit ça peut... Encore une fois, tout n'est pas à désespérer. Il y a la langue et le style. Et chaque année, je pense qu'il y a un étudiant qui est publié, ou deux. Donc, c'est possible. Et on essaie, en fin d'année, de trouver par rapport... aux manuscrits, les éditeurs qui viennent faire le jury, on essaie de trouver les incohérences. Ça c'est l'expérience. C'est me dire ah telle éditrice, elle pourrait être intéressée par tel étudiant. Et souvent ça peut, on se trompe pas. Mais ça c'est autre chose. Il faut qu'on sente vraiment le texte. Ouais, c'est dans ce sens-là.
J'avais envie de parler pour finir un petit peu de votre travail.
Oui, j'ai sorti un livre il y a 15 jours. Oui. J'étais chez Grasset auparavant et là je suis passé chez Gallimard. Un roman qui s'appelle La matière humaine. Je vais pas en dire grand chose. Il se passe en 2027, la veille de l'élection présidentielle. Et on suit un écrivain raté, devenu dealer, par la grâce des applications, et une jeune femme. Et c'est une dérive nocturne jusqu'au décompte de l'élection sous couvert d'extrême droite. Non, j'oubliais une chose. Le livre démarre, il y a une commande de drogue pour la nuit. Et ça arrive de plus en plus. C'est un enfant qui livre. Et l'enfant va mourir tout de suite. Bon, c'est pas trop comment, mais il meurt. Et c'est le point de départ. Et c'est un décompte sur l'époque.
Cet enfant avait exactement la même couleur que moi. Mais on ne se ressemblait en rien. Il était mon boy. Le livreur inconnu, avec son sourire acatone et automate. Il incarnait, malgré son audace, le bouc émissaire de base. Le réceptacle muet du malaise dans les urnes. Le mien, peut-être, je ne sais pas. Son côté affranchi de livreur, de gamin précoce qui se croit chez lui, avec ses iris mirobolants, irrigués d'enfance. Son regard, au moment où je ne prends même pas la peine de le considérer comme un déchet embarrassant pour mes sens, l'odeur de peur qu'il dégage immédiatement, une fois saisi, sa fierté d'enfant à ne pas me dénoncer comme son client face à ces hommes cuirassés, hoplites d'État, validés dans leur violence par le poison autoritaire français et sa pulsion identitaire qui veut faire mal. Je l'ai vu. Je l'ai vu au moment précis où son regard a cherché le mien, et moi, je ne l'ai pas regardé. J'ai à peine tourné la tête. Comme s'il était un obstacle de plus, un détail gênant, une odeur nauséabonde. Il n'a pas bronché. Il ne m'a pas désigné du menton. Pas un mot. Pas un signe. Fierté de gosse. Il a gagné sa propre estime en se taisant. Et moi, je suis là. Tête basse. Infâme. Me sachant infâme. Dealer raté, écrivain manqué, et ce soir, client collabo muet. J'ai écrit à Antea que je ne veux plus dealer. Je veux être au diapason de tous. Je veux passer commande comme tout le monde pour mieux fixer ma culpabilité. Je lui envoie un message.
C'est pas un livre très gai, je vous conseille pas.
Et par rapport à votre... c'est votre deuxième, votre troisième ?
Troisième, oui.
Et c'est inscrit dans une continuité ou rien
oui,
à voir ?
Oui, ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. Là, j'en aurais terminé, mais oui, ça s'inscrivait dans une communauté. Une sorte d'hommage aux femmes, aux mères plutôt. Mais rentrer dedans serait trop long.
Et la dystopie, c'est...
Très légère. Parce que là, je pense que mon idée, là, j'ai pas besoin d'être voyant.
Et pour faire le lien entre votre travail d'auteur et la transmission, tous les auteurs ne sont pas nécessairement aptes à transmettre.
Non. Mais moi, je suis devenu auteur plutôt sur le tard. Je pense que ma nature première était, comme je le disais tout à l'heure, plutôt celui de l'édition. Le désir et puis ma curiosité à lire des textes, des jeunes textes, à découvrir. C'est vrai que j'ai un goût sur comment la jeunesse peut évoquer notre monde. Ça, c'est vrai que ça m'intéresse. Et de plus en plus, puisque je suis de moins en moins jeune. Donc, je suis toujours très curieux. Donc, c'est un peu ça qui m'a animé. Et Gilles Collard, qui avait aussi une revue, on s'est connus il y a plus de 20 ans, et on est devenus proches. Puis, à force de parler de livres, d'édition et tout, quand il a créé ce master, donc il y a maintenant 10 ans, il m'a fait venir très vite, il m'a proposé, il m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai pas répondu tout de suite, je crois, presque, mais à un moment j'étais circonspect, et puis je me dis, ouais, ça me paraît pas mal, puis voilà. Et là, par contre, il y a la découverte d'être avec les autres, le groupe, leurs attentes, voilà, c'est toujours très intéressant. Puis je vois la société qui change, parce que c'est pas les mêmes personnalités. Donc je vois les curseurs qui bougent. Peut-être en ça, ça me nourrit.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est peut-être en ça, oui, ça me nourrit parce que je suis, je serais peut-être pas. Enfin, je suis un peu sismographe quant à l'époque par leur truchement. Alors même si j'ai mes propres préoccupations, mais au moins je suis pas à côté de la plaque sur comment vit le monde, quoi. Chez les jeunes, comprendre la violence faite aux jeunes depuis quelques années, que ce soit par la technique ou par les enfermements, comment on a traité le Covid, ou ce genre de choses qui m'intéressent, que je mets dans les livres, mais qui sont pour moi de la pure politique, pour le coup. Mais, donc ça, oui, je le sais, et j'ai appris des choses encore plus par des témoignages, par des choses de ce genre-là.
Puis on en est à évoquer votre travail d'auteur. Je crois que vous accordez pas mal d'importance à un point de déséquilibre qui vous caractérise. Est-ce que ce point de déséquilibre, vous essayez de transmettre aux étudiants ?
Un peu, mais pas directement. Je me sers des textes. Des textes où il y a ce point de déséquilibre, où justement il y a le tremblé, une sorte de tremblé, on sait plus trop. Et c'est à partir de là que ça m'intéresse. Moi, à titre personnel, c'est à partir de là que ça m'intéresse. Je fais souvent chou blanc. Souvent, ça passe. Mais après, chacun est... Non, c'est peut-être ça qui a changé, c'est que j'ai aussi appris à garder mes propres goûts et à être plus consensuel. Peut-être qu'au tout début, j'étais pas très consensuel. Genre, mettais du Georges Bataille. Tout de suite, il y avait quand même un corpus comme ça qui était un peu lourd. Et là, ça me force à aller chercher des auteurs que j'aime bien, du coup, à revoir des positions, à trouver des auteurs qui font le lien plus entre ce que je peux croire qu'ils aiment et ce qui m'intéresse. Donc, oui, je suis un peu moins, parce que c'est vrai qu'à un moment, je leur mettais peut-être du Blanchot, du Georges Bataille, mais qui sont quand même un peu, c'est bien, mais ça peut être un peu lourd.
Donc votre enseignement finalement a évolué.
Ouais, ouais.
Ça fait 6-7 ans que...
Il s'est adapté. Ouais. Il s'est adapté. Je pense pas qu'ils penseraient ça, mais moi j'ai mis de l'eau dans mon vin. Quoi. Je vais pas leur faire un cours sur le trait à mon nom ou sur des choses qui moi me plaisent. J'ai appris à garder certains de mes goûts. Quoi. Et ça, je garde plutôt ça pour l'édition, pour d'autres trucs. La manière j'édite... les textes sur lesquels je travaille. Mais oui, j'ai...
Sur lesquels vous travaillez, vous, ou sur lesquels...
Les deux, quand je travaille pour la revue que je tiens...
Qui s'appelle, vous pouvez me rappeler.
Possession immédiate.
Elle est disponible en France ?
Ouais, je l'avais arrêtée il y a 2 ans. Il y avait eu 10 numéros, 12. Et là, elle va renaître. Elle va renaître de ses cendres dans pas longtemps. Il y a une pause de 2 ans. Et moi, j'ai trouvé des financements. Ça va revivre.
Donc c'est des jeunes auteurs.
C'est un mélange.
Ouais,
il y a des gens qui n'ont jamais publié et il y a des auteurs presque cultes.
Mais il y a une ligne éditoriale précise.
La mienne.
Qui est
Chacun mes goûts.
On va s'arrêter là ou vous avez envie de rajouter quelque chose? Merci beaucoup.
Extrait lu par le comédien Stéphane Cohen souligne la culpabilité qui hante la matière humaine, j'avais aussi envie de donner la parole à la poudre, dotée d'un cynisme en butte à toute forme de pathos.
Anthea, tu me prends pour grésiller, pour que tes cuisses se serrent, que tes muscles se contractent selon une grammaire invisible. Éthologie des pulsions, caresse des peaux, sphinge à la recherche de femmes qui t'extraient de ton corps. Seule ta colonne reliée au centre de la terre en fusion existe. Ta chaleur inonde ce qu'il faudra savoir éteindre à temps. Chaque corps que tu lèches te le raconte. Chaque seconde où tu t'appliques à ça, comme une chatte à sa toilette, est une éternité sans colère. Tu t'appliques. Consciencieuse et absente. Et toi, Saul, tu n'es jamais loin. Vous vous êtes trouvé. Je vous accorde cette vérité. La vie est courte, mes agneaux.
Voilà, cet épisode sur le master texte et création littéraire à Bruxelles s'achève avec cette dernière lecture d'un extrait issu de la matière humaine, par le comédien Stéphane Cohen, que je remercie chaleureusement. À bientôt.